La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous poursuivons notre parcours dans la vie et l'œuvre de Barbara, née en 1930 et disparue à l'âge de 67 ans, fatiguée par les médicaments et une alimentation hasardeuse. Star de la chanson française, elle a toujours su se réinventer, notamment sur scène, et faire de son passé cabossé la matière très riche de son œuvre, sa vie. Jean-François Kervéan nous en a parlé, c'était au cours de notre premier épisode, disponible évidemment en téléchargement. Mais Barbara était-elle une poétesse? Elle-même suggérait que non, ce qui n'est pas forcément l'avis des universitaires qui se sont penchés sur son travail, à l'image de Joël Julie qui nous a montré au cours de notre second épisode tout l'intérêt de ses paroles. Et enfin, dans le quatrième épisode de notre série, eh bien, nous serons en compagnie de Bruno Blankmann qui nous livrera ses souvenirs des nombreux concerts de Barbara auxquels il a assisté. Tandis qu'en seconde partie de cette même émission, le dramaturge et écrivain Pierre Note nous dira pourquoi il a tué Barbara, pour reprendre le titre de son livre paru chez Philippe Ray éditeur et dans lequel il raconte surtout pourquoi Barbara lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui ?
Le mystère, c'est ce que les autres ont voulu que je sois, c'est-à-dire mystérieuse. Moi, je ne me trouve pas mystérieuse, évidemment. Mais ça peut être mon physique qui leur est étranger. Qu'est-ce que c'est le mystère? Je n'en sais rien. C'est peut-être... je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que le talent? C'est peut-être seulement savoir sourire, d'entrer en scène, sourire. Je ne sais pas. Le mystère, je ne sais pas ce qui leur fait dire que je suis mystérieuse. Je n'ai jamais très bien su, très bien. Avant, on disait insolite... mystérieuse. Moi, je crois plutôt que c'est étrangère.
Extrait d'une interview de Barbara par Denis Glaser en 1968. Alors aujourd'hui, pour raconter la diva, qui était aussi la mère de l'Aigle Noir, pour parler également de sa manière de travailler, nous sommes avec vous, Valérie Lehoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice du livre Barbara, portrait en clair-obscur aux éditions Fayard. Vous avez également publié Je vis ma vie. Non, je vis pas ma vie, je la rêve. Voilà, c'est ça. Un livre, cette fois sur Jacques Higelin, aux mêmes éditions Fayard. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'ailleurs de Barbara? Est-ce qu'on peut dire qu'elle ne vivait pas sa vie, mais qu'elle l'a rêvée?
Je pense qu'elle chantait sa vie, plutôt, et qu'elle a reconstruit sa vie en chantant. C'était encore autre chose. C'est drôle parce que c'était un peu... c'était pas des jumeaux, mais ce sont deux artistes au parcours... quelque part parallèle, en tout cas il y a des échos, incontestablement.
Lesquels?
Il y a des enfances compliquées, et il y a la volonté de s'inventer un destin, de se le construire à travers vraiment la création. Je pense même peut-être de s'inventer un personnage, de devenir celui que vous voulez être, que vous avez vraiment envie d'inventer, envie d'incarner, envie d'habiter.
Parce que aussi, il est difficile de vivre la réalité, que parfois c'est mieux d'essayer de rêver et parfois de suivre son rêve.
Oui, ça c'était Higelin, c'est sûr. Barbara, je crois que elle, c'est ce qui est extrêmement important, lui aussi d'ailleurs quelque part, mais c'est chanter pour chanter sa vie, pour reprendre la main sur sa vie et pour ne plus se laisser balloter par un destin qui vous est parfois contraire.
Et dans le cas de Barbara, pour sublimer sa vie aussi?
Pour sublimer les blessures de la vie, oui, bien sûr.
Parce que vous expliquez dans les premières pages de votre livre, Valérie Lehoux, vous faites un rapport à un livre de Nancy Houston qui était paru à peu près la même année ou quelques années avant la parution du vôtre, qui s'appelait Professeur de désespoir. Donc Nancy Houston disait, voilà, il y a beaucoup d'écrivains, Beckett, Angot, qui sont au fond des nihilistes, des professeurs de désespoir. Et en lisant ce livre, vous vous êtes dit, Barbara, ça n'est pas une professeure de désespoir.
Ah oui,
pourtant,
absolument.
Elle est désespérée.
Non, je trouve pas. Elle n'est pas désespérée. Est-ce que de temps en temps, on est heureux? Oui. Est-ce que de temps en temps, on est désespéré? Oui. Je suis sûre que vous aussi, Mathieu. Moi, ça m'arrive et je pense que ça arrive à peu près à 100% de l'humanité.
Ouais. Tout dépend du ratio. Si c'est 90%, 10% de désespoir, on est quand même plutôt désespéré.
C'était pas une femme désespérée. D'ailleurs, elle-même, elle le disait, il y a une petite formule comme ça qu'elle sortait assez fréquemment, enfin, qui avait été écrite sur un programme et qu'on ressort comme en guise de sorte d'autoportrait. Je ne suis pas une mante religieuse, je ne suis pas une tulipe noire, je ne suis pas désespérée du matin au soir. Mais oui, bien sûr qu'elle n'était pas désespérée du matin au soir. Après, il faut reconnaître que les plus grandes chansons sont souvent celles qui touchent au plus profond et que le plus profond, c'est soit l'exaltation du sentiment amoureux, grand thème s'il en est dans la chanson française et chez Barbara, et puis le désespoir. Voilà, mais ça fait des chansons d'espoir chez Barbara. C'est ça la grande différence. Mmh. C'est en cela qu'elle n'est pas du tout une professeure de désespoir. C'est-à-dire qu'elle chante aussi ce désespoir, entre autres, qu'on peut tous ressentir, mais qu'elle nous dit « garde espoir ». Et c'est pour ça que des milliers de gens, notamment de jeunes gens, parce que très souvent la passion qu'on peut éprouver pour Barbara se forge à l'adolescence, au moment où...
Ça a été votre cas ?
Oui, ça a été mon cas, évidemment. Oui, ça a été, je pense que j'avais 14 ans, 13 ou 14 ans.
Vous vous souvenez exactement de la première chanson ?
Exactement, oui, exactement. Alors écoutez, c'est facile, j'avais pas encore 14 ans. J'allais au collège donc et j'ai vu une affiche de Barbara parce qu'elle chantait quelques jours plus tard dans la ville d'où je viens et où je vivais qui est la ville de Tours. Et bien sûr, j'y suis pas allée, enfin on n'allait pas au concert j'allais pas au concert à cet âge-là, on n'allait pas avec mes parents. Et le lendemain du concert, je ne sais pas pourquoi parce que cette affiche m'avait vraiment, vous savez, on la voyait pas, c'était simplement sa silhouette découpée à partir d'une photo qui est devenue très célèbre de Jean-Pierre Leloir, on la voit comme ça, tendant le bras vers le ciel.
Oui, ensuite on a pensé à cette photo qui faisait aussi penser au mouvement noir américain, parce que ça rappelait le point tendu des Noirs américains.
Oui, vous prenez une espèce de statue de la liberté, en tout cas c'est très sculptural. Et donc j'avais voulu absolument savoir comment s'était passé le concert, et le lendemain, je me souviens que j'étais dans la cuisine de l'appartement familial et que j'avais ouvert la Nouvelle République du Centre-Ouest sur la table en formica.
Fameux journal de Tours et de la région.
Et j'étais terriblement déçue parce qu'on ne disait quasiment rien du concert de Barbara, parce que la veille ou le lendemain, il y avait eu, et pour le bouclage du coup c'était en même temps, il y avait eu un concert d'Yves Montand où quelqu'un s'était fait à la sortie du concert ou juste à côté, il s'était pris un coup de couteau. Voilà, évidemment, vous imaginez bien qu'à Tours, ce genre d'événement, c'était devenu très très important. Donc on ne disait rien de Barbara. Et puis l'été suivant, ça c'était pendant l'hiver, l'été suivant, à l'époque, j'avais une grande passion pour l'archéologie, je voulais devenir archéologue, je participe à un chantier de fouilles, et il y avait une jeune femme qui était un peu plus âgée que moi, qui avait assisté, en décembre 81, donc là on était à l'été 82, à son très grand concert de Pantin, dont vous parlerez demain, je crois. Et pendant tout le chantier, elle a passé la cassette. À l'époque, il y avait des cassettes audio. Et j'ai été totalement envoûtée par cette voix.
Vous avez dit, j'arrête l'archéologie, j'écris sur Barbara.
Presque.
Un peu plus tard.
Le fait est que j'ai vraiment commencé à écouter à ce moment-là. Et que quelques mois plus tard, dans l'hiver, en novembre, je crois, le film de ce concert de Pantin est passé à la télévision. Et que je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que ça allait changer ma vie. Mais c'est incroyable, une espèce d'instinct. Et à l'époque, à la maison, on avait un petit magnétophone aussi à cassette. Et j'ai cassé les pieds de ma mère, qui est venue avec moi faire des courses à Tours, en centre-ville, pour qu'on achète un câble qui puisse relier la télé au magnétophone, pour que je puisse écouter sans les bruits enregistrés et sans les bruits parasites autour, quoi. Enfin, sans nous qui passions dans la salle, etc. Et j'ai enregistré le concert et je me souviens encore de cette femme chantant, et notamment chantant Le mal de vivre, ou chantant À mourir pour mourir, avec un sourire extraordinaire. J'étais totalement sidérée. Et puis on est rentré, enfin, le concert s'est terminé, je suis allée dans ma chambre, moi je suis fille unique, j'ai été élevée de façon assez sévère hein, quand même, mais merci papa, merci maman, ça m'a servi. En tout cas, j'avais pas le droit de traîner après, donc je suis allée dans ma chambre, mais, et je ne sais pas si ma mère, qui doit m'écouter en ce moment, le sait, j'ai emporté le magnétophone avec moi et je l'ai écouté une partie de la nuit jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Et le lendemain, j'ai acheté mon premier disque de Barbara et c'était parti.
Donc Barbara change vraiment la vie des gens, parce que Jean-François Kervéhan raconte aussi qu'il a eu comme ça une révélation au cancer, à ce fameux concert de Pantin. Est-ce que vous êtes allé, puisque du coup vous êtes tourangelle, ce dernier concert de Barbara qui a eu lieu à Tours? Elle savait pas que ce serait son dernier concert au Vinci, cette salle ultra moderne qui devait avoir été inaugurée sans doute l'année d'avant ou quelque chose comme ça. Vous y êtes allé?
Vous pensez bien que j'y étais, oui. Oui, j'y suis allée, oui. D'abord parce qu'on pressentait quand même, les gens qui suivaient et aimaient Barbara, pressentaient que ça ne durerait plus très longtemps, Barbara sur scène, quoi qu'elle ait pu dire à l'époque, parce qu'encore une fois, même ce soir-là, elle a dit « je reprends la route à l'automne », c'était la fin d'une partie de la tournée. Mais enfin, elle avait, en fait, donc là, on était au mois de mars 1994 et la tournée avait commencé au mois de septembre ou en novembre. En novembre 93, enfin l'année d'avant, en tout cas à l'automne d'avant, au Châtelet, où elle devait chanter 2 mois et où malheureusement elle n'a pu chanter que 3 semaines puis quelques jours parce qu'elle est tombée malade. En fait, elle a fait une double pneumonie. Et elle avait repris la route. Oui, non, c'était en septembre. Elle avait repris la route au mois de janvier. Avec un concert à Massy, je me souviens, où j'étais aussi. Et tout le monde se demandait si elle pourrait finir cette partie de tournée, parce qu'elle avait quand même été très malade, ce sont les pompiers qui étaient venus la chercher au Châtelet. Elle avait essayé de remonter sur scène, elle avait chanté 3 jours, espace de temps pendant lequel un disque a été enregistré, mais elle était vraiment très très fatiguée. Et puis les admirateurs lui avaient dessiné un chemin de roses entre l'entrée des artistes et l'hôtel dans lequel... Elle vivait à côté du Châtelet à ce moment-là. Elle avait le corps beaucoup plus fatigué que son esprit, hein, bien sûr, parce qu'elle n'était pas très vieille, hein, Barbara. Elle avait 63, 64 ans à ce moment-là. Et au moment où elle est remontée sur scène, les médecins lui déconseillaient de remonter sur scène et les assureurs n'ont pas voulu assurer la tournée. Ce qui est fou, parce que vous savez, en général, les assureurs assurent les tournées. Si le chanteur tombe malade, le producteur ne perd pas son argent. Là, personne n'a assuré. La seule qui a assuré, c'est elle, en fait, puisqu'elle a fait absolument toutes les dates entre le mois de janvier et ce fameux 26 mars, qui était la dernière date prévue avant une reprise à l'automne. Elle a chanté. Tous les soirs, elle était là. Tous les soirs, elle a formidablement assuré. Tous les soirs, elle a chanté plus de 2 heures en se donnant totalement. Et ce dernier soir à Tours, il s'est passé quelque chose d'assez troublant, parce que c'était quelqu'un qui était... qui à la fois se donnait complètement sur scène, mais qui avait... D'abord, elle était extrêmement myope, donc elle ne voyait pas vraiment devant et jamais elle serait descendue de scène, par exemple. Jamais, c'était pas possible. Et puis la scène, c'était un peu son territoire sacré, vous voyez, parce qu'il y avait quelque chose évidemment de très sacralisé, de très ritualisé dans les concerts de Barbara. Et ce soir-là, après avoir chanté Ma plus belle histoire d'amour dans cette grande salle de 2000 places, en effet flambant neuve, elle est descendue par le côté gauche de la scène. Elle est descendue dans le public. Les gens étaient debout, bien sûr, l'acclamaient, etc. Et c'était assez sidérant, en fait, de voir cette dame qui était... Oui, on peut dire cette dame, cette femme, cette espèce de mythe, cette artiste, je sais pas, elle avait un statut tellement étrange et elle était tellement impressionnante. Elle avait le regard, je vous mens pas, elle semblait totalement possédée, en fait, vraiment.
Elle savait que c'était le dernier, vous croyez ?
Elle le savait. Elle le savait. Nous, on le savait pas. Mais on a quand même senti qu'il se passait quelque chose d'étrange.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier voyage de nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Et qu'est-ce que tu viens faire là, toi?
Écoute, c'est super, c'est dommage que ne soyons pas à l'antenne, ça serait divin de vous entendre chanter toutes les deux.
Mais on aime bien ça.
Superbe. Tu vas nous chanter?
Je suis très honorée, je n'ai pas du tout envie de chanter, d'accompagner Juliette.
Mais tu es bien obligée de chanter, puisque moi je suis là pour écouter.
Voilà. Alors nous on s'en va et on te laisse chanter maintenant.
Pas drôle du tout.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant
Longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé.
La Compagnie des œuvres sur France Culture. Vous avez peut-être reconnu cette archive, Valérie Lehoux, qui commence par Juliette Gréco, qui chante du Barbara, et ensuite il y a Jacques Chazot qui arrive, et puis enfin Barbara. On peut peut-être dire un mot quand même du parallèle qui peut être fait ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, entre Gréco et Barbara. C'est évidemment deux chanteuses avec un répertoire assez différent, un rapport à la scène aussi assez différent. Juliette Gréco, c'est moins physique évidemment quand elle chante que Barbara. Est-ce que néanmoins il y a des points communs?
Il y a l'amour des mots, sans doute. L'importance en tout cas des mots, parce que l'amour des mots, peut-être que Gréco, je ne vais pas dire l'avait plus, mais en tout cas, elle le portait plus fièrement puisqu'elle ne chantait pas ses textes, Gréco. C'est ça la principale différence, c'est que Gréco était une interprète. Barbara fut l'une des toutes premières femmes auteurs, compositeurs, interprètes. Il y en avait très 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 peu hein, dans ces années 50 finissantes en France. Il y a eu Nicole Louvier, il y a eu Anne Sylvestre et il y a eu Barbara. C'était quand même une révolution. Gréco apparaît avant et elle chante les textes des autres et elle chante très majoritairement, si ce n'est quasi exclusivement, des textes d'hommes auxquels elle insuffle sa féminité, sa très grande féminité. Mais c'est presque la mise en scène, parce qu'il y avait une très grande mise en scène, même si elle était sobre. Hein, je veux dire, la mise en scène de Gréco, elle passait par le visage, les bras, les mains. Pas beaucoup plus, mais c'était une gestuelle extrêmement appuyée. Et c'était presque la mise en scène, la mise en corps, la mise en voix de fantasmes d'hommes, d'une femme fantasmée par les hommes qu'elle incarnait. Barbara, c'est pas ça. Barbara, c'est le chant très intérieur d'une femme qui s'assume comme femme à une époque où on n'entend pas des chansons de femmes, on n'entend surtout particulièrement pas des chansons sensuelles de femmes, ce qu'elle va être la première à faire.
Alors comment travaillait-elle? On va essayer de parler un petit peu de ça avec vous, Valérie Lehoux. Il faut commencer par dire son exigence professionnelle absolue. C'est quelqu'un qui réécrit, qui réécrit, qui réécrit sans cesse.
Oui, c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas, qui réécrit, qui fait bouger les chansons au fil du temps. D'ailleurs, quand on écoute les différents enregistrements, que ce soit en studio et puis après vous réécoutez une chanson qu'elle va... Parce qu'il y a eu pas mal d'enregistrements en public de Barbara. Au fil des années, vous voyez des chansons évoluer. Vraiment, elle en change le texte. Et puis il y a cette histoire bien connue des amateurs, des admirateurs de Barbara et de ses biographes. C'est la première fois qu'elle chante Nantes. En fait, c'est dans une toute petite salle. Elle n'est pas connue encore. On est en 1963. Et il y a une femme qui est là, qui la voit, parce qu'elle est invitée à une série de soirées pour repérer des jeunes talents. En fait, c'est un amoureux de la chanson qui s'appelle Gilbert Sommier qui organise des petites soirées comme ça dans un théâtre qui est en face de l'Olympia. C'est un peu comme à l'époque, l'Olympia, il n'y a que les yéyés. Hein. Et donc, lui, il veut défendre la chanson à texte. Donc, il a loué cette petite salle. Et il fait venir de jeunes talents et c'est présenté par une femme qui s'appelle Sophie Macnot. Et elle se rappelle, Barbara, l'après-midi, avant le concert, écrivant, griffonnant, raturant, déchirant, réécrivant.
Donc les chansons que pourtant elle connaissait déjà très bien.
Ben, un texte, non, mais en tout cas au moins un texte qu'elle va créer ce jour-là pour la première fois, qui est Nantes, et qui va donner le vrai point de départ de sa carrière. C'est-à-dire que la chanson fondamentale, quand on parle vraiment de la chanson qui pose les fondations de son succès, c'est celui où elle évoque son père.
C'était en 1980. C'était Charles Maroni qui m'avait appelé pour aller dans son bureau. Il avait dit, il y a quelqu'un qui veut vous voir, je ne sais pas qui c'était. C'était Don Barbara, qui m'avait proposé de travailler avec elle pour jouer à Panthère avec elle. Et elle m'avait donné certaines conditions. Avant de dire oui, il fallait que je passe un test, que j'aille habiter avec elle 4 jours dans sa maison. Voilà, comme ça, sans jouer. Peut-être jouer quelques notes de temps en temps. Mais c'était surtout parler, vivre, écouter, parler, oui. Je voulais savoir comment j'étais, qui j'étais, qu'est-ce que je pensais de la vie. J'avais une contrariété ou quelque chose, elle le voyait tout de suite. Mais toi, ça va pas aujourd'hui. Bon, allez. Mais elle le voyait, elle savait, j'avais même pas besoin de lui parler. Elle sentait tout. Tout. Voilà. Et puis au bout de ces 4 jours, elle m'a dit, je pense qu'on pourra travailler ensemble. On a travaillé, j'ai travaillé avec elle jusqu'à sa mort. Voilà, jusqu'au dernier album. Et voilà, on s'est plus quittés.
Elle me disait, où elle me jouait sur son petit piano. J'entendais des trucs, des fois, qui n'est bon, très, très difficile à décrypter. En fait, c'était un peu comme des hiéroglyphes, quoi, si vous voulez. Là-dedans, il faut prendre l'essentiel. Donc moi, j'écrivais, mon rôle était d'écrire des partitions pour Marcel Azola ou pour Tomassi ou les gens qu'on a eu avec nous, ou Henneken, et leur faire au moins un guide. Sinon, c'était impossible qu'ils puissent jouer des notes qu'elle me chantait, elle, que moi, je retransmettais sur un papier à musique et je donnais ça aux musiciens. Voilà. Si on lui faisait pas ce qu'elle voulait, ça pouvait être pas terrible. Mais on le faisait pas. Si c'était une improvisation dans son sens un peu qui était, je dirais, géniale, quoi, parce qu'il faut rentrer dans le... Ça pouvait lui plaire, mais c'était rare. Personne n'est parti dans des impros. Non, enfin, moi je me rappelle pas avoir improvisé. Non, pas avec elle. Non, pas trop.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et avec le témoignage de son pianiste Gérard Daguerre. Alors collaborer pour Barbara, c'était collaborer avec des musiciens de grand talent, mais c'était surtout collaborer avec des sensibilités.
Oui, d'ailleurs, il le dit un peu là, Gérard Daguerre, qui commence à parler de Barbara depuis assez peu de temps. Hein. Il aura eu besoin de... au moins 10 ans après sa mort, pour même plus, je crois. Moi quand j'ai écrit ce livre qui est sorti, je crois 10 ans après la mort de Barbara, il voulait pas encore parler.
Pourquoi ? Il était...
Je pense que les extrêmement proches... D'abord, Barbara aurait détesté qu'on parle d'elle. Là, je pense qu'elle aurait détesté cette émission.
Bon, vous pouvez pas dire ça, c'est affreux. Mais non, elle aurait beaucoup aimé.
Elle avait quand même le souci de contrôler... De contrôler son image, de contrôler ce qu'on disait d'elle. Elle a toujours refusé. Bon, il aurait pu y en avoir, mais elle détestait l'idée que des gens écrivent des livres de son vivant. En tout cas, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a tenu, elle, je pense, à le faire finalement. C'est sorti, son texte est sorti posthume. Mais en tout cas, ce qu'elle avait de plus important à dire, c'est-à-dire son rapport à son père, parce que je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de tout, c'est elle qui a tenu à le dire. Et heureusement que c'est venu par elle, je trouve. Mais, oui, ça me fait rire, parce que quand on entendait au tout début de l'émission cette archive où elle dit « Mais non, je ne suis pas mystérieuse, je ne comprends pas. » Enfin, est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes qui parlent comme ça ? Enfin, ne serait-ce que dans sa façon de parler, bien sûr qu'elle était assez mystérieuse et assez théâtrale. Ceci dit, elle dit « Je suis plutôt étrangère », c'est peut-être ça, en fait. Mais en tout cas, elle aimait pas qu'on parle d'elle, et parce que tout était, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, je parlais de ce plateau, de la scène qui était sacralisée, tout était dans son rapport à la chanson sacrée. Vous savez qu'elle portait un costume noir, dont elle ne voulait absolument pas qu'il voie la lumière du jour, parce qu'elle était convaincue qu'il y avait après de mauvaises vibrations qui allaient venir, un peu comme l'habit d'un prêtre, ou d'un officiant religieux. Il fallait que tout cela soit préservé. Et il fallait donc que, on n'avait pas le droit d'assister aux répétitions. Personne, même les directeurs de festival. Moi, je me souviens, quand elle est allée chanter au Francofolie, je m'étais cachée, j'étais montée dans l'une des tours de La Rochelle, et je regardais les répétitions d'en haut, et ben je vous le dis, j'ai vu Jean-Louis Foulquier se faire sortir de la scène.
Non, je déteste ça.
Qu'est-ce que vous détestez ?
Je déteste qu'on vienne avant, ça, je trouve ça épouvantable. Je ne voulais pas qu'on vienne me voir, je m'enferme complètement. Non, ça, je déteste ça. C'est pas très gentil, mais j'y arrive pas. Pas vivre ces deux vies-là, c'est vouloir vivre pour les 2 heures. Si on vit pour les 2 heures où on rentre en scène, moi j'ai besoin, dès que je m'éveille, c'est rentrer en religion dès le matin. C'est difficile, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, parce que je ne sais pas faire autrement. Ah non, ça, non, les gens qui viennent avant en disant je ne vous dérangerai pas, gna gna gna. C'est moi, c'est moi. Mais c'est moi, puisque c'est moi, tu me connais. Ah. Je veux bien rater, mais je veux être responsable. Je ne veux pas que ce soit quelque chose d'autre qui m'ait dérangé et pris mon énergie. Ah non, tant pis, il faut être comme ça. Je crois que c'est ça, en fait. Je sais pas qu'on me touche ma robe de sel avant de rentrer, des choses comme ça. C'est... Tony.
Votre robe de sel.
Tony. Tony.
C'est du fétichisme.
Non. Non, mais je ne sais pas, parce que Tony arrive, il met son manteau. Il est de dehors, c'est l'énergie de dehors, il touche ma robe de sel, il me prend, donc, il ne peut pas comprendre. Il dit, je le mets à côté, mais c'est pareil, faut pas, c'est pas du fétichisme. C'est, je ne sais pas, on ne touche pas un chirurgien ou un homme, je ne sais pas. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est pareil pour moi, je ne sais pas. C'est l'habit, on ne touche pas. Hein. Je sais pas, non, c'est pas du fétichisme, mais il apporte, il me prend la force, la robe de sel. Non, dans ma robe de sel, il y a aussi une partie d'énergie, c'est une chose qui ne sort pas de la selle, donc c'est complètement vierge du monde extérieur. Je pense que c'est. Je sais pas, il touche. Tony, depuis 10 ans, il n'a pas compris ça. Il met ses affaires. Il dit, je l'ai pas mis là, je l'ai mis à côté. Non, je ne peux pas faire ça. Non, c'est pas du fétichisme.
Extrait de ce documentaire, très beau documentaire de Gérard Vergès, Barbara, ma plus belle histoire d'amour. C'est la scène très célèbre dans la voiture, dans sa Mercedes. Elle va en tournée comme ça à Châteauroux avec son chauffeur. Et puis elle raconte qu'il ne faut pas toucher la robe parce que la robe, c'est l'habit et la robe, c'est sacré. C'est vrai que chanter pour elle, c'était presque comme prendre le voile au sens propre.
Oui, mais absolument. Et c'est pour ça, juste pour revenir à Gérard Daguerre, le musicien là, qui a mis tant de temps à parler, je pense que ça aurait été comme briser un cercle un peu magique et de respect, de silence autour d'elle, un peu comme quand si un prêtre cassait le secret de la confession. Enfin, je veux dire, on en est presque à ce niveau-là. Vous avez entendu dans l'archive, elle dit, c'est comme entrer moi j'entre en religion dès le matin parce que, mais c'est vraiment ça, en effet.
Donc elle prenait une chambre d'hôtel tout près de là où elle allait se produire pour justement être déjà dans l'atmosphère, voire même dans l'énergie de la proximité de la salle.
Elle arrivait dans les théâtres à 9h du matin pour chanter à 21h. Et elle n'en bougeait pas, donc elle se promenait à travers le théâtre, elle essayait les différentes places pour voir comment les gens allaient ressentir le spectacle, elle se promenait à droite, à gauche, et en effet on n'avait pas le droit de venir la voir quand elle répétait, mais c'était territoire interdit, mais c'est là où il faut, je pense... C'est l'une des illustrations, c'est pas la raison, mais c'est l'un des symptômes, si je puis dire, de pourquoi... À quel point cette femme n'était pas une chanteuse ordinaire et pourquoi aujourd'hui d'ailleurs, si elle reste à ce point, plus de 20 ans après sa mort, alors qu'elle passe pas à la radio Barbara, et si elle reste à ce point présente, et si elle est à ce point revendiquée comme la référence absolue par toute la nouvelle génération de la chanson française, y compris des gens de 20, 25 ans, 30 ans qui ne l'ont jamais vue sur scène et pour cause parce qu'ils étaient trop petits, c'est parce que c'est pas une chanteuse ordinaire, c'est pas quelqu'un qu'a fait profession de chanter. C'est une femme qui est née juive en 1930, je sais que vous l'avez déjà évoqué dans la première émission, dont la famille a fui la guerre, il fallait bien, mais c'est pas la pire chose pour elle. C'est une enfant qui a été violentée et violée par son père pendant plusieurs années, qui a porté ça. C'est une jeune femme qui a vu son père disparaître du jour au lendemain, elle avait 19 ans, ça a été terrible. Qui a affronté des conditions matérielles très compliquées aussi, c'est-à-dire la pauvreté, hein, pour la pauvreté, la faim.
Donc c'est tout ça qui arrive finalement sur scène dans l'émotion qu'elle met dans les chansons.
C'est quelqu'un qui a dit, s'il y a une chose peut-être qui aurait pu me détourner de mon désir de chanter, c'est d'avoir un enfant. Et elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il ne restait que la chanson. Et la chanson est devenue le salut. Donc le salut, c'est quoi? C'est sacré.
Il fallait que la chanson soit parfaite aussi, parce que si elle mettait son salut dans la chanson, il ne pouvait évidemment pas y avoir de demi-mesure. D'où aussi les colères, parce que c'était une femme colérique, très professionnelle d'ailleurs, on pourrait dire les choses. C'est un mot qui ne vient pas facilement à l'esprit quand on pense à Barbara, mais en fait, il y avait cette espèce de rigueur pour que tout soit exactement en place, exactement à sa place.
Ah, mais elle était D'aucuns diraient qu'elle était un peu timbrée, hein. On va quand même dire les choses comme elles sont, parce qu'elle se promenait quand même avec une clé, je sais pas si c'est une clé à molette, oui, une clé à molette, je crois, dans les théâtres pour régler les radiateurs pour qu'ils soient à la bonne température. Il fallait tout le temps que le tabouret du piano soit, je crois, à 42 cm. Elle faisait accorder ses pianos d'une façon très particulière.
À 442. Absolument. Au lieu de 440. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs?
Ah, malheureusement, je suis pas assez musicienne pour vous le dire, mais c'est une histoire de tonalité, je crois. C'est vraiment, mais minime. Enfin, je pense qu'une oreille lambda n'y voit absolument pas de différence. Mais chez elle, c'était exactement comme le coup de vous n'allez pas poser votre manteau. Si vous posiez le manteau à côté de son habit de scène, elle ne pouvait plus chanter. Enfin, je veux dire, le cérémonial était brisé. La beauté du geste était souillée. C'était plus possible.
Alors, cette femme assez sensuelle n'avait pas supporté qu'un jour arrivant pour se produire quelque part, je crois que c'était à Fontainebleau, le piano est en fait peint, il est peint avec des pin-up ou des femmes nues.
Oui,
pour elle, tout d'un coup, c'est impossible de chanter.
Oui, apparemment, c'était un très très beau piano, je crois, historique, où il y avait des naïades, des femmes nues peintes sur le piano. Et ça a été absolument impossible. Et son assistante de l'époque a dû aller acheter un drap dans un magasin de pompes funèbres pour recouvrir le piano, oui.
Bernard, il a touché un tout petit peu le piano. On n'a pas à toucher le piano. Alors, je sais pas, moi. Je sais pas. Après, ça m'est égal, mais là, c'est ma chose, cette chose-là, qui va tout doit être comme ça, comme une force, comme une... Que personne touche apporte une énergie qui peut être contraire à une chose. Non, je ne veux pas qu'on touche. Qu'on enlève de la violence, ou même si Roland joue une autre musique, elle vous fait. Je sais pas quoi. Avec son accordéon, on pourrait pâter les pompiers. Mais ça déconcentre, parce que s'il joue une autre chanson avant, je veux dire qu'il le sait avant, il ne comprenait pas, mais il enlève le climat, c'est très important.
On pourrait encore parler de Romanelli, Valérie Lehoux, son compagnon, musicien, compagnon de toujours, enfin, pas jusqu'à la fin.
Non, pas jusqu'à la fin. Quand elle dit Roland, c'est lui, hein. Donc, elle le rencontre, il est jeune, c'est un jeune musicien. Avant, elle travaille avec un très grand accordéoniste de l'époque, qui a joué avec Brassens aussi, qui s'appelle Jos Baselli, et puis elle se fâche avec Baselli, comme elle se fâchait quand même avec un certain nombre de gens. Surtout quand les gens étaient moins disponibles. En fait, c'était très souvent ça. C'est-à-dire qu'on... Barbara disait qu'elle était entrée dans la chanson un peu comme on prend le voile. En tout cas, elle était entrée en religion. Et quand vous décidiez de travailler avec elle, il fallait aussi entrer au couvent, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait être disponible totalement pour elle. Comme elle l'était pour vous, hein, d'ailleurs. Mais il fallait accepter la règle du jeu. Alors, quand les musiciens avaient des contrats ailleurs, ça se passait parfois très mal. Et donc, elle se fâche avec Jos Baselli au milieu des années 60. Et là, elle va rencontrer ce jeune accordéoniste qui s'appelle Roland Romanelli et qui va rester auprès d'elle plus de 20 ans, jusqu'en 1985. 19 ans, du coup. Et c'est pareil, ils vont se fâcher du jour au lendemain d'une façon dramatique et théâtrale, comme toujours avec Barbara. Ils ne se reverront plus. Et quelques temps... Alors, Romanelli était connu dans le métier pour avoir été l'un des premiers à avoir importé l'accordéon électronique en France. Donc, les synthétiseurs. Et des années après leur fâcherie, un jour, il reçoit un coup de téléphone. Il reconnaît immédiatement que c'est la voix de Barbara. Évidemment, elle lui dit pas « Roland, c'est Barbara, j'aimerais bien te revoir ». Elle lui dit « Bonjour, je suis bien chez Jean-Michel Jarre ». Et il se vexe à moitié, il dit « Non, non, pas du tout », il raccroche.
Il l'avait reconnue.
Bien sûr, je crois que c'est l'un des regrets éternels de sa vie. Ouais. Parce que avant de mourir, elle avait essayé de le recontacter à nouveau. Ouais.
Alors, il y a un autre homme dont il faut parler, parce que vous en parlez de manière achronologique dans votre biographie, puisque vous en parlez au tout début dans l'introduction, c'est François Wertheimer. Pourquoi cet homme-là, ce jeune homme à l'époque, est-il si important pour Barbara ?
Alors d'abord, je ne sais pas si dans la compagnie des œuvres on évoque ce genre de choses, mais Barbara bien aimait bien les hommes jeunes. Barbara aimait beaucoup les hommes, contrairement à une image qu'on lui a souvent collée. et une réputation d'homosexualité qu'elle a eue parfois. C'était une mangeuse d'hommes, Barbara. Et c'était une femme extrêmement moderne et qui n'hésitait pas, qui a eu des tas d'aventures avec des hommes plus jeunes qu'elle.
Alors attends, avant que vous continuiez, on va justement écouter l'une des chansons où elle le dit.
J'ai plus de ton âge, mais t'as le goût à me regarder. Premier voyage, je plie le cou sous tes baisers. T'as poussé doucement ma porte refermée. Et tu m'as dit en quelque sorte, je voudrais t'aimer. Et dans le vide, où je m'avance un peu cassé, sans plus rien voir, plus rien savoir, rien écouter. T'as dit je veux, avec ferveur, tu t'es couché au sable mouvant. Des amours condamnés, et nos saisons ne sont plus les mêmes. Tu es printemps, je suis hiver, et la saison de nos je t'aime pourrait nous mener en enfer.
Tu es printemps, je suis hiver, c'est une illustration de ce que vous disiez à l'instant, Valérie Lehoux.
Oui, et j'étais en train de... Je regardais dans mes notes, là, à ma connaissance, la première fois qu'elle chante ce thème-là, c'est une chanson qui s'appelle « Le bel âge », où elle raconte une histoire, une liaison qu'elle a avec un jeune homme de 20 ans, et c'est une chanson qui date de 1964. Et là, on doit écouter un enregistrement à peu près de 1994, à peu près. Donc, on peut dire que c'est un fil conducteur de l'œuvre, et c'est un thème récurrent dans sa vie, oui, sa vie amoureuse, fort fournie.
Donc il y a eu ce François Wertheimer qui était en effet plus jeune qu'elle.
Elle avait 42 ans, il avait 25 ans. C'est une amie commune qui les a mis en contact. En fait, là, on est juste au début des années 70. Elle est un peu, on va appeler ça... Elle est en pleine remise en cause personnelle et artistique. Barbara, donc je vous le disais tout à l'heure, ça explose avec Nantes en 1964. En 1963, dans cette petite soirée. Et puis en 64... Elle fait la première partie de Brassens à Bobino, où la presse titre un faux pas de Brassens, une prouesse de Bobino, de Barbara. Mm-hmm. C'est la révélation. À tel point qu'en 65, elle y revient en vedette. À la fin, elle y revient le 15 septembre. La première date, c'est le 15 septembre 1965. Elle chante à Bobino. Et en 66, elle revient encore à Bobino, et en mémoire de ce 15 septembre 1965, où elle a été vraiment sacrée grande vedette de music hall, elle fait cette allusion dans Ma plus belle histoire d'amour. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous. Et de 64, 65, 66, 67, 68 jusqu'en 69, c'est vraiment une carrière qui explose. En 69, à l'Olympia, à la surprise générale et du public, mais aussi de son équipe, personne n'était au courant, elle dit qu'elle va prendre des distances avec ce métier. Je pense qu'elle a été extrêmement marquée par l'exemple de Brel, qu'elle adorait 3 ans avant, qui a décidé carrément de quitter le music hall. Elle dit « Je ne veux pas être une fonctionnaire de la chanson ». C'est pas possible, mais c'est normal quand vous avez cette conception de la chanson là qu'on détaille depuis le début de l'émission. Vous pouvez pas faire ce métier comme « Moi, je vais au travail tous les jours ». Et encore, moi, j'aime mon travail. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est, elle n'est pas à la poste, quoi. C'est pas possible. Donc, elle n'allait pas revenir, sortir.
C'est bien aussi de travailler à la poste.
Oui, pardon pour les postiers. Et puis, on les aime beaucoup et on a vu à quel point ils nous sont indispensables. Mais voilà, elle ne pouvait pas avoir un rapport professionnel à la chanson, c'est ça ce que je veux dire. Il fallait qu'il y ait la grâce et la passion, sinon ce n'était plus la peine. Donc elle voit que ça commence à s'émousser, que ça commence à devenir trop régulier, trop récurrent, trop professionnel, et elle décide de faire un pas de côté. Et là, elle va devenir un peu comédienne, bon, ça va être une catastrophe, mais bref, peu importe. Elle a besoin de respirer. Et puis elle va avoir besoin, envie de réécrire un disque, de réenregistrer un disque, mais elle n'arrive pas à écrire en fait. Parce qu'elle a déjà écrit l'essentiel de ses chansons à ce moment-là, Barbara. Les 3/4 des chansons de Barbara, c'est pendant...
Donc elle a tout dit finalement, elle n'a pas tellement besoin, enfin elle redira des choses après.
Elle a dit l'essentiel.
Elle a dit l'essentiel, donc elle peut confier à quelqu'un d'autre finalement ce disque. Et c'est là qu'elle rencontre François Wertheimer. Ils s'enferment tous les deux dans sa maison, au Précis. Bon là, apparemment, il s'habille assez peu. Elle va écrire une chanson d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle L'homme en habit rouge.
Ah oui, alors ça c'est drôle parce que donc c'est la première fois, ce sera la seule fois où elle confie tous les textes d'un disque à quelqu'un d'autre, hein, puisque comme je vous le disais, contrairement à Gréco, elle était auteur, compositrice, interprète. Là, elle lui donne tous les textes. Lui, c'est un jeune rocker, bohème, etc. A priori, très très loin d'elle. Elle va l'aimer, je pense, assez passionnément pendant à peu près un an. Et puis, en effet, comme il se promène nu dans le jardin de Précy, bon, je vous rassure quand même, le jardin, c'est comme un peu comme un cloître, encore une fois. Donc, on le voyait pas, les voisins ne le voyaient pas.
Il y avait la religion, toujours.
Oui, des décors de bâtiments tout autour. Elle va lui offrir un parfum, son parfum préféré. Alors, ce qui est assez drôle, si vous voulez,
c'est
Habit Rouge de Guerlain. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle l'a offert à d'autres hommes de sa vie. Donc, ils sont plusieurs à penser que la chanson L'homme en habit rouge est pour eux. En fait, moi, je suis sûre que c'est pour Wertheimer. J'ai recoupé entre leur histoire et le texte, et la date d'enregistrement. Il n'y a aucun doute. Oui, c'est bien François Wertheimer, L'homme en habit rouge.
Voilà, parce qu'il ne portait donc que ce parfum. Alors, tous les deux, ils vont écrire cet album La Louve. Lui est aux paroles, elle est à la musique. C'est un album intéressant. Il y a des chansons étonnantes comme la chanson pour une absente.
6 novembre.
Ouais.
Chanson pour sa mère, en fait, qui est morte un 6 novembre.
Vous diriez qu'il y a un tournant là, avec cet album ?
Oui, il y a un tournant. Il y a un tournant à de multiples titres. D'abord, à partir de ce moment-là, elle va commencer à beaucoup moins écrire, beaucoup moins enregistrer. À partir de ce moment-là, elle va se façonner un destin artistique totalement à part par rapport aux autres chanteurs, en fait. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'avant, vous avez ces 5, 6, 7 ans. D'abord, il y a quand même 10 ans de galère. Mm-hmm. 10 ans de galère, hein. Même voire 15 ans de galère pour Barbara. Après, vous avez ces 6, 7 ans d'énormes succès populaires entre 64 et 70. 70, c'est L'Aigle Noir. Et puis,
c'est le sommet alors, L'Aigle Noir.
C'est en termes de popularité, c'est le tube de l'été. C'est quand même une chanson qu'elle ne voulait pas enregistrer. Hein. C'est quand même
Pourquoi
une petite histoire. Ah ben, sans doute parce que elle parle de l'inceste. Mm-hmm. Sans doute. Elle l'avait au fond d'un tiroir, il lui manquait une chanson pour finir un disque et elle va concéder. Voilà, ok. Elle le fait. Et voilà, et ça va devenir la chanson emblématique par excellence.
Toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est sans doute
toujours aujourd'hui, ce qui est incroyable. Encore une fois, c'est quand même fou cette femme. Sa carrière décolle avec Nantes qui parle de son père et de l'inceste. Sa carrière culmine avec L'Aigle Noir qui parle du père et de l'inceste. Sauf que nous, on ne le réalise pas.
Elle ne l'a jamais dit, si ?
Non,
est-ce qu'elle a dit que c'était vraiment l'inceste dont elle parlait ?
Elle ne l'a jamais dit.
Donc on n'en est pas sûr, si ?
Oh, allez, mais oui, on en est sûr. C'est alors la première à avoir fait l'analogie à ma connaissance, et c'était très bien vu. C'est l'une de ses anciennes assistantes qui a écrit sur elle, qui s'appelle Marie Schex, et qui le savait. Je pense aussi simplement que ça, sans doute qu'elle lui avait dit. Mais en fait, elle note que dans Nantes, dans L'Aigle Noir et dans une autre chanson beaucoup moins connue, mais qui fait aussi allusion à l'inceste, qui s'appelle Au cœur de la nuit, en fait, vous avez des termes qui se répondent. Et ça ne peut pas être un hasard, évidemment.
Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre, oui j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, regarde dans le soir qui penche, de là-bas, ces voiliers qui balancent, et les jolies sa voile blanche.
Voilà ce dont je suis sûr. C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire. Et les autres autour d'elle. Entrez, monsieur le producteur. C'est en cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme.
Moi, je vous en prie, silence.
Ça, C'est Barbara qui chante du bout des lèvres dans le film de Mathieu Amalric qu'on entendait ensuite, ce film qui s'appelle Barbara. Alors, c'est un vrai personnage, Barbara, à la fois dans la vie, elle est drôle, elle fait le show quand même un petit peu.
Complètement.
Toujours, mais c'est aussi un personnage à la scène, vous l'avez évoqué très furtivement, au moment où elle cherche à se réinventer. Et il va y avoir un épisode qui est l'épisode de la pièce de théâtre Madame. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Ah oui, c'est ça. Alors, en 1969, donc à l'Olympia, elle décide de rompre avec ce qu'elle appelle le possible fonctionnariat de la chanson. Et comme elle dit, je ne suis pas la cousine de province qui reviendra tous les ans faire une rentrée parisienne. Et à partir de ce moment-là, elle va chercher à faire autre chose et elle suggère à son ami Raymond Forlani de lui écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Madame. Et qu'elle va jouer en 1970, qui va être aussi l'année de la sortie du disque L'Aigle Noir, mais qu'elle ne chante pas sur scène à ce moment-là. Et elle va jouer cette pièce, une pièce musicale. Et alors, en travaillant sur ce livre, j'ai eu une espèce d'éclair, de révélation, de eureka. Mm-hmm. Je me suis rendu compte qu'en fait, le propos de cette pièce, qui est très 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 étrange, c'est une tenancière de bordel, l'histoire d'une tenancière de bordel en Afrique, et il y a un homme qui est amoureux d'elle, et il va tuer des gens qu'il cache à la cave en gros, et elle va couvrir ses crimes.
Ben, au passage, c'est un peu la même intrigue que Lily Passion.
Absolument, c'est la même intrigue que Lily Passion. Et elle va aller vers ces criminels pour les soulager de leurs crimes dont elle se sent responsable. Et qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas l'histoire de Nantes.
Mmh. Ça peut être aussi l'histoire de quand, en Belgique, elle traîne aussi dans des milieux interlopes. Il y a peut-être cette ambiance-là, non ?
Je crois pas. Je crois que l'ambiance, on le retrouve dans des détails. Par exemple, dans Lily Passion, elle fait allusion à une femme qu'elle a rencontrée en Belgique, puisqu'elle peuple tout son univers de personnages réels inventés. Mais je pense que la matrice de tout, c'est cette espèce de culpabilité. Vous savez, dans son livre, elle donne la clé. Elle parle de Nantes, donc cette chanson où elle va, elle raconte cette histoire. Il y a la même histoire que dans la chanson, elle apprend que son père est mort à Nantes, ou elle apprend qu'il est en train de mourir. Elle y va en catastrophe, et puis il ne m'a jamais revue, comme elle dit dans la chanson. Enfin voilà. Et ce qu'elle dit dans le livre, c'est « Je m'en veux d'être arrivée trop tard et de n'avoir pas pu dire à ce père que j'ai tant détesté. Tu peux dormir tranquille, je te pardonne, je m'en suis sortie puisque je chante. » C'est ça la matrice de Barbara. Et c'est la même chose que donc dans cette pièce de Forlani, et que dans Lily Passion. Et en fait, c'est une très mauvaise comédienne. C'est une formidable comédienne quand elle joue sa vie,
justement.
Mais pas quand elle joue la vie des autres. Mais non, il faut qu'elle soit elle-même. Si elle commence à partir dans d'autres considérations, ça se passe horriblement mal. Elle va avoir de très 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 mauvaises critiques. Ça va être un fiasco complet, cette pièce.
À tel point que le jour de la première, elle prétexte de ne pas pouvoir chanter.
Voilà.
Parce qu'il y a tout Paris qui est dans la salle au Théâtre de la Renaissance.
Elle a une extinction de voix.
Elle a une vraie fausse extinction de voix. Elle a été comédienne peut-être avec plus de réussite dans le film de Brel, France. Vous pensez que là, elle joue comment, Valérie Leroux ?
Moi, je trouve qu'elle est... je trouve que le film n'est pas très réussi, à vrai dire. Premier film, en effet, réalisé par Brel, où il joue dedans aussi. Et je trouve que Barbara s'en sort plutôt très bien. Mmh. Elle joue un... Alors, elle adorait Brel, hein. Vraiment, c'était... elle adorait, elle l'admirait. Il paraît que chez elle, après il y avait une lampe qui restait toujours allumée, qu'elle appelait la lampe de Jacques.
Après sa mort, après elle a allumé cette lampe, elle ne l'aurait plus jamais éteinte.
Absolument. Et ce fut l'une des rares personnes qu'on a vues à l'hôpital de Bobigny quand il était... quand il était dans les tout derniers jours de sa vie, elle est allée lui rendre visite. Il y a une photo très célèbre d'elle, enfin très célèbre, où on la voit quitter l'hôpital main dans la main avec Madeleine, la dernière compagne de Brel. Et dans ce film où il joue deux personnages complètement, deux inadaptés de l'amour, on va dire, je trouve que Barbara, avec toutes les maladresses à la fois, elle, de sa non-maîtrise de la comédie et lui, de sa non-maîtrise de la réalisation, s'en sort très bien.
Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge, à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière, en s'obligeant avec le pinceau à la lenteur de se faire belle, pour vous. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre, plus jamais le rideau qui s'ouvre, plus jamais le pied posé dans la lumière sur la note de cymbale éclatée, plus jamais descendre vers vous, venir à vous, pour enfin nous retrouver.
Il y aura du monde à l'enterrement, si l'on en croit les apparences, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que je trouve avec outrance, couché là sur mon paillasson, lorsque je n'y suis pour personne, ou pendu avec des raisons, au fil de mon téléphone, ou pendu avec des raisons, au fil de mon téléphone. Il y aura du monde assurément, au nom du père, au nom du fils, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que j'aimais de père en fils, ça me fera un gentil régiment, me rendant les derniers offices, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement. Et celle qui je l'ai bien connue, n'est pas belle, elle est cancanière.
Georges Moustaki, tout de suite en archive. On va parler un peu des dernières années, puisqu'il ne nous reste pas tellement de temps. Les 10 dernières années, elles comptent quand même pour Barbara. Ou alors, c'est la lente disparition que vous avez déjà commencé un petit peu à raconter au début de cette émission.
Parce que donc Barbara disparaît en 1997. En 1993, elle fait sa rentrée au Châtelet, malheureusement contrariée par sa pneumonie. Mais elle remonte sur scène, elle va chanter donc pendant tout le... la fin de l'hiver 94, dernier concert à Tours, 26 mars 94. Elle comprend là qu'elle ne chantera plus en public, que son corps ne la porte plus. Donc elle commence à écrire ses mémoires et ce qu'on a entendu là, la lecture que faisait dans la voix de Georges Moustaki, l'un de ses très proches aussi.
Il était un piano noir.
Oui, absolument. C'est le tout début d'Il était un piano noir, qui est son texte autobiographique inachevé, sorti posthume.
Oui.
Et après cela, elle va enregistrer un nouvel album. Elle enregistre entièrement un nouvel album. Qui s'appelle Barbara, qui va sortir le 6 novembre. Elle adorait, elle avait des dates fétiches. Donc 6 novembre, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une chanson qui portait ce titre. C'était le jour anniversaire de la mort de sa mère. Et pour elle, c'était une date importante. Et le 6 novembre 1996, elle sort un album, le premier album original depuis 15 ans, et c'est un événement à ce moment-là, hein, et il va être numéro 1 au top album. Mmh.
Ça restera une femme aussi engagée, et même sans doute de plus en plus engagée à la fin de sa vie. Alors c'est pas l'engagement tel que on le connaît, c'est pas un engagement tapageur, c'était même plutôt le contraire, c'était un engagement dans la très grande discrétion, quand des personnes âgées l'appelaient, leur envoyaient des téléviseurs pour pas qu'ils s'ennuient, quand il fallait soutenir la cause du sida, la lutte contre le sida, elle distribuait des préservatifs, elle allait en prison aussi, Valérie.
Tout, oui, elle est allée en prison, elle est allée dans les hôpitaux, mais vraiment dans les années 80, au moment où les malades du sida étaient des pestiférés, pour reprendre ce terme qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Personne ne voulait les voir. Enfin, c'était terrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passait autour de cette maladie et les ruptures qu'il pouvait y avoir dans les entourages familiaux. Elle allait voir les malades qui étaient seuls. Elle avait ouvert une ligne de téléphone exprès entre deux hôpitaux, Beaujon et Bichat, et chez elle. Elle leur parlait pendant des nuits entières. Et en effet, elle est allée en effet chanter dans les prisons avec un médecin, Gilles Pialoux, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps avec le coronavirus, parce qu'il est maintenant il a un très haut poste à l'hôpital Tenon. Et c'est pareil, lui, pendant 10 ans, il n'a pas voulu parler de ce qu'il avait fait avec Barbara, comme
tous
en forme
veulent
de
la protéger,
oui, absolument.
En fait.
Et quand elle allait dans les prisons, dans les hôpitaux, ce qu'elle voulait absolument, c'était surtout pas un journaliste. Ouais. Surtout pas un journaliste. Parce que ce qu'elle faisait, elle le faisait pas pour elle, ou en tout cas pour elle peut-être intensément et intimement, mais elle ne le faisait pas pour son image, pas du tout, contrairement à beaucoup d'autres, elle le faisait vraiment pour les gens qu'elle allait voir.
Et puis l'engagement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ça a peut-être été aussi un travail de réconciliation au travers de sa chanson Göttingen, réconciliation entre la France et l'Allemagne. Merci beaucoup Valérie Lehoux. Votre livre Barbara, portrait en clair-obscur, est disponible dans la collection de Poche Pluriel. C'est à présent le moment de la chronique, voici en compagnie des revues.
La compagnie des heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec vous aujourd'hui Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une autre manière de visiter les musées et les expositions.
Tout à fait. Visiter une exposition Miro au Centre Pompidou à Paris, enchaînée par une autre dédiée à Dubuffet au Mucem à Marseille, puis faire un petit tour par la Frick Collection de New York avant de passer une tête dans la grotte Chauvet en Ardèche. Tout cela est désormais possible dans la même journée grâce aux expositions virtuelles. Alors le principe n'est pas nouveau. Dans les années 90, déjà, des CD-ROM offraient d'arpenter les salles des plus grands musées du monde. Pourtant, cet outil n'a jamais véritablement trouver sa place, longtemps boudé par les institutions. Longtemps, jusqu'au confinement du printemps dernier. Fermés, les musées se sont enfin délocalisés sur Internet et sur les réseaux sociaux, proposant aux internautes des visites live sur Facebook ou des expositions modélisées en 3D. Et leur surprise a été grande de voir que non seulement les gens répondaient massivement présents, mais que de nouveaux publics s'intéressaient à eux. Pour vous donner un chiffre, Mathieu, le Louvre a comptabilisé plus de 10 millions de visites en ligne durant le confinement, soit autant que le nombre de visiteurs réels en une année.
En effet, c'est impressionnant. On peut aussi comprendre en même temps la défiance des musées envers le numérique qui ne facilite pas la rencontre du spectateur avec l'œuvre d'art.
Le numérique ne remplace pas et ne remplacera jamais la matérialité d'une peinture ou d'une sculpture. Vous avez raison. Vous avez consacré en septembre une série d'émissions à Vincent Van Gogh. Or, qu'est-ce qu'un tableau de Van Gogh sans l'épaisseur de sa touche? Vous vous souvenez peut-être de l'exposition Van Gogh Artaud au musée d'Orsay en 2014. Eh bien, le champ de blé au corbeau n'avait malheureusement pas fait le voyage depuis Amsterdam où le tableau est conservé. Alors, en partenariat avec Google, Orsay avait choisi de projeter dans une salle l'image numérique de ce chef-d'œuvre dans une définition si haute qu'elle offrait des détails jamais vus du tableau. Au magazine d'Art L'Œil, nous avions été séduits par ce dispositif, tout en reconnaissant qu'il ne provoquait pas d'émotion esthétique.
Alors, le numérique ne remplace donc pas l'expérience physique, mais il peut en revanche offrir de nouvelles approches de médiation.
Oui, dans le magazine L'Œil, nous avons voulu savoir ce qu'apportaient ces expositions virtuelles. Le Centre Pompidou nous explique ainsi que le numérique rend possible des choses que l'expérience physique ne permet pas. Il offre notamment d'expérimenter de nouvelles formes de médiation, c'est vrai, mais aussi d'accès. Car on se rend compte aujourd'hui que le numérique atténue ce que l'on appelle l'effet de seuil. Vous savez, l'effet de seuil, ce sont ces fameuses barrières psychosociales qui font que certains publics n'osent ou n'oseraient pas franchir les portes des musées, tout en permettant aussi de toucher des publics difficiles à capter, c'est-à-dire les jeunes.
Donc il y a cet effet de seuil, mais ça n'est pas le seul atout du virtuel.
Oui, il y en a au moins un autre. Une exposition virtuelle coûte aussi beaucoup moins cher, jusqu'à 100 fois moins cher qu'une exposition physique. Pas de transport d'œuvres, pas de prime d'assurance. Elle est aussi plus rapide à monter. Quelques semaines, quand il faut en moyenne 3 ans de préparation pour une exposition classique. Alors à l'heure de la crise sanitaire qui contraint les publics et de la crise économique qui, elle, contraint les budgets, ces deux arguments font mouche. Encore faut-il, nous dit Stéphanie Lemoine qui signe l'enquête dans L'Œil, que les institutions ne sacrifient pas l'exigence scientifique et la qualité éditoriale au nom de la technologie. Les expositions virtuelles, nous dit Stéphanie, doivent avoir les mêmes critères d'excellence qu'une exposition physique. Sinon, cela ne fonctionne pas. Et c'est peut-être ce qui sauvera les institutions de la mainmise de Google. Quand le géant américain détient la technologie, les musées, eux, restent les propriétaires du savoir et des contenus. Pour combien de temps encore? Ça, je ne sais pas.
Eh bien, on lira sans doute dans L'Œil la suite de ce feuilleton au fur et à mesure des prochains numéros. Et en attendant, eh bien, on peut vous lire directement dans le numéro en kiosque. Quel est le titre de la une de ce numéro?
La vie reprend dans les musées avec Victor Brunner, qui est une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris, dont je vous conseille la visite.
Eh bien voilà, on va lire ça. Merci beaucoup Fabien Simode, à très bientôt. C'est la fin de La Compagnie des œuvres, une émission qui vous était proposée aujourd'hui, comme chaque jour, par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et également, derrière la console aujourd'hui, Ludovic Auger. Demain, nous serons en compagnie de Bruno Blankmann qui évoquera notamment les nombreux concerts de Barbara auxquels il a assisté. Ça, ce sera pour la première partie. Et puis en seconde partie, c'est l'écrivain et dramaturge Pierre Note qui nous parlera de Barbara à partir notamment de son livre « J'ai tué Barbara » publié aux éditions Philippe Ray. La fiction ce soir, c'est toujours Michael Jackson, The Man in the Mirror, l'épisode 3 sur une série de 5, rendez-vous à 20h30, mais tout de suite sur France Culture, on retrouve les sciences.